Chapitre 9. Campagne de Chine. Opération militaire. Entrée dans Pékin. Traité de paix. Les deux cousins brûlaient de connaître les faits qui avaient signalé la campagne. Le lieutenant de vaisseau ne demandait pas mieux que de les leur raconter. Aussi ne tarda-t-il pas à satisfaire le désir de ses jeunes amis. Un jour que la pluie s'opposait à toute espèce de promenade, il se rendit chez Madame de Kerdoret et, après les politesses d'usage, il reprit ainsi son récit. Le général Montauban, commandant en chef de l'expédition, avait touché à Shanghai le 10 mars 1860 et préparé tout pour recevoir les troupes. Le général anglais, Sir Hope Grant, y arriva le 6 avril avec son état-major. L'ordre fut donné aussitôt à l'infanterie de marine casernée à Canton et aux régiments anglais venus des Indes à Hong Kong d'aller occuper les deux îles Qinlang et Chusan. La réponse à l'ultimatum envoyé à l'empereur de Chine fut transmise aux généraux le 9 avril. Elle repoussait toutes les demandes de réparation faites par les alliés. Il fut résolu, à la suite d'un conseil, qu'on localiserait la guerre dans le Pecheli. Les Chinois travaillèrent à fortifier l'entrée du Peiho. « C'est la rivière qui conduit à Pékin, n'est-ce pas, monsieur Frédéric ?» interrompit Horace. « Et le Pecheli, c'est le golfe où elle se jette ?»« Précisément, répondit l'officier. » Et il est nécessaire que vous ne les perdiez pas de vue l'un et l'autre pour bien suivre les mouvements des troupes expéditionnaires. Je continue. Le 28 juin, le baron Gross et Lord Elgin, ambassadeurs de France et d'Angleterre, avaient rejoint les généraux à Shanghai. Ils annoncèrent aux habitants par une proclamation qu'ils devaient échanger à Pékin les ratifications du traité et ils se disposèrent à partir pour le nord. Le 1er juillet, toutes les troupes étaient dans le golfe de Pecheli. Les Chinois, décidés à disputer énergiquement l'entrée du fleuve, poursuivaient avec activité leurs préparatifs de défense. La barre de l'embouchure du Peiho a environ 1 mètre de large. Elle est couverte par 10 ou 12 pieds d'eau à la marée haute et par 2 seulement à la marée basse, ce qui rend très difficile la navigation des embarcations légères. De chaque côté des forts de Taku étaient des batteries rasantes, chargées de canons plus ou moins dissimulés par des sacs de terre. Des jonques de guerre, aux voiles bariolées, croisaient sur les côtes pour empêcher toute tentative de débarquement. Mais il ne paraissait pas douteux que, quand le moment serait venu, elle serait incapable d'opposer une résistance sérieuse. Le plus grand obstacle serait le rivage qui, extrêmement bas, se perd dans une vase liquide. Une reconnaissance fut opérée le 3 et le 14, et il fut arrêté que les deux corps d'armée se réuniraient au Pétang. Les Français comptaient 7650 hommes, les Anglais 12300 environ. L'armée française débarqua dans les premiers jours d'août. Les soldats, pour atteindre le rivage, avaient de l'eau jusqu'à la poitrine. Les généraux marchaient à leur tête. Le 8, hommes, vivres, munitions, tout était à terre. Nous occupions la ville. 3 jours après, le camp retranché des Chinois était emporté et la route de Pékin ouverte. La fête de l'empereur fut célébrée le 15. Le matin, à 6 heures, le canon français, auquel l'artillerie anglaise répondit immédiatement, l'annonça au loin. On avait élevé au milieu du camp un autel orné de feuillages. À 9 heures, toutes les troupes formées en carré, les officiers au centre, assistèrent à la célébration de l'office divin, pendant lequel se firent entendre alternativement des chœurs admirablement organisés et les musiques des divers régiments. Les Anglais, qui professent leur culte avec une régularité extrême, furent frappés du recueillement de nos soldats. C'était, vous l'avouerez, un spectacle émouvant de voir notre corps expéditionnaire, encore accablé des fatigues de la veille et noirci de poudre, réuni autour d'un autel en plein air pour remercier Dieu du succès de nos armes et prier pour la conservation des jours de l'empereur. « Oh oui, c'était bien beau !» s'écria Ludovic. « Et nos régiments devaient avoir beaucoup plus de courage encore après avoir prié ainsi pour la France et son souverain. »« Vous ne vous trompez pas, mon petit ami, répartit l'officier. On ne fait jamais mieux son devoir que quand on a présent à la pensée Dieu et la patrie. » Nos soldats ne tardèrent pas à prouver de nouveau que l'empereur avait le droit de compter sur leur vaillance. Le 21, 5 forts furent enlevés, avec 500 bouches à feu, des munitions de guerre et des armes de toutes sortes. L'embouchure du Peiho, sur les deux rives, était aux Français. Cet événement eut un premier résultat. Les ambassadeurs, les généraux et les amiraux ouvrirent le 26 à Tientsin une conférence avec le vice-roi et les envoyés chinois. On tomba d'accord sur presque tous les points, mais, au dernier moment, les ambassadeurs chinois prétendirent qu'ils n'avaient pas de plein pouvoir pour signer. Les troupes alliées se portèrent à Tongcheou, non loin de Pékin. Les Français bâtirent le 8, dans les environs, une armée considérable de Tartares. Mais les habitants refusèrent de leur fournir des vivres et la ville fut livrée au pillage. Les ambassadeurs chinois vinrent renouveler au quartier général leur proposition de paix. Il fut impossible de les accepter. On ne pouvait traiter en l'absence des plénipotentiaires. Le baron Gross et Lord Elgin arrivèrent le lendemain. Le 20, on apprit que l'armée tartare, concentrée sur la route de Pékin, avait l'intention d'attaquer Tongcheou. On ne lui en laissa pas le temps. Le 21, à 4 heures du matin, les troupes se mirent en marche. Elles rencontrèrent l'ennemi à quelque distance du village de Palikao. On se battit depuis 7 heures du matin jusqu'à midi. Ce fut une brillante affaire où les généraux Jamin et Collineau se distinguèrent particulièrement. Le soir, on campait à 8 milles de Pékin. Les envoyés chinois demandèrent de nouveau à renouer les négociations. Le baron Gross et Lord Elgin exigèrent qu'on rendît préalablement les prisonniers. Sur leur refus, les alliés résolurent d'attaquer Pékin. Ils partirent le 6 octobre. L'armée tartare, au lieu de les attendre, s'était dirigée vers le palais d'été de l'empereur. Ils se portèrent de ce côté et arrivèrent au palais le 7. Les tartares l'avaient évacué. Une commission fut chargée de faire le partage des monnaies d'or et d'argent, ainsi que des objets de curiosité les plus précieux. La paie de prise de chaque soldat fut évaluée à 80 francs environ. Les Anglais mirent le feu aux édifices sans l'assentiment des Français. Le 9 octobre, les Alliés étaient sous les murs de Pékin. Les Chinois consentirent alors à rendre les prisonniers. Plusieurs avaient été massacrés, d'autres étaient morts de faim. Cette nouvelle excita l'indignation des soldats. Ils étaient impatients de venger leurs frères d'armes. Le 15, le général Montauban signifia au gouvernement que si les portes de la ville n'étaient pas livrées le jour même, le bombardement allait commencer. Quelques heures après ce message, les drapeaux français et anglais flottaient sur la porte du nord. « Bravo !» s'écria Ludovic en battant des mains. « J'aurais voulu avoir votre âge, monsieur Frédéric, et planter moi-même le drapeau. Quel beau jour pour nos soldats! N'est-ce pas, ma bonne mère, que j'entrerai à Saint-Cyr et que je serai officier ?»« Nous n'en sommes pas arrivés là, » répondit en souriant madame de Kerdoret. « En attendant, continue de bien travailler afin d'être, dans l'armée ou dans une autre carrière, un homme utile et un homme de bien. » L'enseigne de vaisseau reprit. Une cérémonie touchante eut lieu le 17. On inhuma les prisonniers anglais qui avaient succombé. Les ambassadeurs et les généraux conduisaient le deuil. Le traité anglais fut signé le 24 et le traité français le lendemain. Puis le corps expéditionnaire fut autorisé à visiter la ville. Le 28, les Français rendaient à leur tour les derniers devoirs aux infortunés dont les corps avaient été livrés. À 1 heure de l'après-midi, une foule considérable, dans laquelle on remarquait les officiers des deux corps d'armée et les ambassades françaises, anglaises et russes, au complet, remplissait l'église catholique, ouverte de nouveau aux chrétiens, depuis la signature du traité de paix. Chacun des cercueils était placé sur un chariot d'artillerie et recouvert d'un drap de velours noir, sur lequel se détachait une croix blanche. Ils avaient été construits à Pékin par les soins du gouvernement. Le cortège qui suivait le deuil était conduit par M. l'abbé Trégaro, aumônier en chef de l'armée, assisté de plusieurs autres prêtres, de Mgr Mouly, évêque de Pékin, et de 24 catéchistes en costume de chœur. Après l'office funèbre, on se dirigea vers le cimetière situé à l'extrémité d'un des faubourgs de la ville. La marche était ouverte par plusieurs compagnies des différents corps de l'armée. Une double haie de soldats, s'avançant l'arme renversée, échelonnait le cortège. Le général Montauban, son état-major, de nombreux officiers de toutes armes, en uniforme et avec l'écharpe de deuil, les généraux Jamin et Collineau, à la tête de leur brigade, et beaucoup d'officiers anglais suivaient à cheval. Les ambassadeurs de France, d'Angleterre et de Russie, avec les attachés des diverses légations, faisaient aussi partie du cortège. Pendant le trajet, qui dura plus de 2 heures, les prêtres récitèrent des prières. Les tambours firent entendre des roulements lugubres. Et par intervalles, les musiques des régiments exécutaient de nombreux morceaux. Arrivés au cimetière, les corps furent reçus et bénis par Mgr Mouly, entourés de tous les membres du clergé catholique. Le cimetière enclos de murs est dans un parfait état de conservation, dû sans doute au respect profond des Chinois pour les morts et à la pieuse protection de la mission russe à Pékin. Il a la forme d'un parallélogramme et est partagé au milieu par une allée plantée d'arbres verts qui en borde les côtés. On y voit une centaine de tombes disposées sur 3 rangs. Toutes les pierres tumulaires, taillées sur un modèle uniforme, sont simples mais dignes. La première, avec la date de 1610, est celle d'un missionnaire portugais qui, pendant quelques années, eut une véritable influence à la cour des empereurs de Chine. La dernière, qui porte la date de 1825, est celle du révérend père Perboire, missionnaire martyr. Un modeste autel s'élève à l'extrémité de l'allée, surmonté d'une croix en marbre blanc. C'était en face de cette croix qu'on avait creusé les fosses de nos frères d'armes. Des voix éloquentes firent l'oraison funèbre des victimes du 15 septembre. Monsieur Trégaro parla de la cause juste et sainte pour laquelle les soldats de la France étaient venus sur cette terre lointaine, résolus à défendre les intérêts de la civilisation chrétienne et à venger les outrages qu'avait reçus la religion. Le colonel de Bentzmann prit ensuite la parole et rendit un juste hommage aux vertus guerrières et civiles de nos malheureux compagnons. Puis le général en chef, après avoir flétri la conduite du gouvernement chinois, adressa un dernier adieu aux infortunés tombés sous les coups de la barbarie. Le 29, l'armée assista à l'ouverture et à la consécration de l'église catholique de Pékin, bâtie en 1637 et fermée au culte depuis 37 ans. Après la messe des morts, durant laquelle les musiques militaires exécutèrent des morceaux funèbres, Mgr Mouly prononça un discours en rapport avec la circonstance. Le digne prélat était vivement ému de retrouver son temple ouvert par nos armes. De grosses larmes coulaient de ses yeux. Il remercia généreusement l'empereur de l'appui qu'il prêtait à la religion. Puis il exprima toute sa reconnaissance aux généraux qui avaient conduit nos troupes à Pékin, à l'ambassadeur qui, dans le traité, avait stipulé la cession à la France de l'église et du cimetière où désormais reposent en terre française nos compatriotes. Enfin, à nos vaillants soldats qui, après s'être illustrés par la victoire, avaient déposé le mousquet pour déblayer les immondices dont le temple du Seigneur était encombré. Après ce discours, Mgr Mouly entonna le Te Deum pour célébrer la réouverture de l'église. Ensuite, un Domine, Salvum fac imperatorem nostrum Napoléonem, pour appeler sur l'empereur les bénédictions du ciel. Ce furent nos soldats qui chantèrent les hymnes de la journée, et nous oubliâmes tous un moment qu'une distance de 6 000 lieues nous séparait de la patrie. L'œuvre était accomplie, comme le dit Monsieur de Maîtressy. Ceux qui étaient morts en l'exécutant avaient reçu les honneurs suprêmes. La croix relevée attestait à ces peuples vaincus la puissance de la France. L'armée, dès lors, pouvait se retirer. Le corps expéditionnaire quitta Pékin le 1er novembre et arriva le 6 à Tianjin. La brigade Jamin se rendit à Shanghai. La brigade Collineau resta à Tianjin. Les traités et la convention, ratifiés par l'empereur, ne tardèrent pas à être affichés dans les principales rues de Pékin. Le baron Gross et Lord Elgin purent alors s'éloigner eux-mêmes de la capitale. Le 13, la Russie échangea de son côté les ratifications d'un traité additionnel qui fixa d'une manière précise les limites des deux pays. Le 22 décembre, le général Montauban était de retour à Shanghai après avoir visité plusieurs villes du Japon. Les affaires étaient terminées dans le Nord. Il devenait urgent d'agir dans l'empire d'Annam. Un corps de 1800 hommes fut mis par le général Montauban à la disposition du vice-amiral Charnay. Il fallait à tout prix achever ce qui avait été si heureusement commencé par le contre-amiral Rigaud de Genouilly et exécuter les projets grandioses de Louis XIV, de Louis XVI et de Louis-Philippe. Nos soldats obtinrent des triomphes qui eurent des résultats sérieux, et nous possédons aujourd'hui dans cet empire un établissement important. Le 6 février 1861, une nouvelle douloureuse vint attrister la garnison de Shanghai. On apprit que le général Collineau était mort à Tientsin, des suites d'une paralysie violente qui des jambes avait gagné le corps avec une effroyable rapidité. L'armée le pleura comme l'un de ses officiers les plus braves. « Telle fut, dit en terminant M. Frédéric, cette campagne de Chine, où nos soldats et nos marins rivalisèrent de courage, et par laquelle le gouvernement de l'empereur atteignit le but qu'il se proposait. Notre drapeau flotte aujourd'hui dans le céleste empire comme dans la Cochinchine, protégeant efficacement nos nationaux et notre commerce. » Et l'influence française s'étend de jour en jour dans ces contrées lointaines où nos navires craignaient auparavant d'aborder. « Je vous remercie, monsieur, répondit madame de Kerdoret, de la complaisance avec laquelle vous avez bien voulu si souvent causer avec mon fils et mon neveu. Vos récits sont pleins d'intérêt et ils auront été pour eux des leçons utiles. Monsieur de Kerdoret sera charmé de retrouver ses deux enfants aussi instruits en arrivant à Paris. » Et il s'empressera, je vous assure, de vous en exprimer sa reconnaissance. « J'espère, madame, répondit l'officier, que j'aurai le plaisir de continuer quelque temps encore à mes petits amis ce que vous avez l'indulgence d'appeler des leçons. Un marin a beaucoup vu, et il lui est, on ne peut plus agréable, de faire part de ses impressions à un auditoire comme celui que je rencontre ici. » Madame de Kerdoret sourit, puis, tirant une lettre de son secrétaire, elle dit à M. Frédéric « Il faut que nous partions après-demain. Mon mari m'appelle à Paris pour une affaire urgente. Je sais combien mes enfants sont heureux ici, grâce surtout aux bontés que vous avez pour eux, ainsi que M. Le Troadec. Mais tout retard est désormais impossible. » Horace et Ludovic n'apprirent pas cette nouvelle sans regret. Les larmes leur vinrent aux yeux, à la pensée de quitter si vite les bords de la mer, leurs amis l'officier et son oncle, et cédant à un mouvement spontané, ils se jetèrent dans les bras du lieutenant de vaisseau. M. Frédéric les embrassa cordialement, puis il les consola un peu en leur disant qu'il allait être, pendant plusieurs années, attaché au port de Brest et qu'il le retrouverait au Conquet, dans 2 ans, s'il venait de nouveau y passer les vacances, ainsi que leur mère en avait le projet. Le lendemain, Madame de Kerdoret et les enfants allèrent prendre congé de M. Le Troadec et de son neveu. Le soir même, ils partirent pour Brest et se dirigèrent sur Paris.